RMC.
Ils doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire. Donc.
J'espère que la route va vite tourner.
RMC Football Show.
Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
En compagnie de Ludovic Bragnac, de Jonathan McCarty, Fred Hermel également est avec nous. Bonsoir Fredo.
Ah bon.
T'es là ou pas?
Bah ouais, je suis là.
Ah, on t'a pas
allô.
Entendu.
Ouais, allô. Bah, je le refais alors. Hola chicos.
Hola Fredo.
Comment qu'ils vont?
Et toi?
Ah bah cool, parce que Brest a perdu 2 points à Châteauroux.
Oh, t'es dégueulasse, arrête. Non.
Jean-Marc Furlan, c'est notre pote, arrête un peu.
Bah ouais, mais sauf que, excusez-moi, c'est la deuxième place de la Liga, la montée de la Liga, enfin de la Ligue 2.
Mais Jean-Marc Furlan, t'as un ami de la
Boursi. Si Lens lundi gagne sur la pelouse du Paris FC, on peut revenir à 6 points de la montée directe.
Prends Furlan à Lens et puis après tu pourras dire ça.
Comment, pardon?
Prends Jean-Marc Furlan à Lens et puis après tu pourras dire ça. C'est un ami de l'after, Jean-Marc Furlan.
Ouais, mais sauf que l'entraîneur de Lens, c'est mon grand pote, c'est Monsieur Montagnier, Philippe Montagnier. De son prénom.
Con qui faut aussi.
Et là, moi les amis, là je défends. En plus, c'est un magnifique entraîneur, élu meilleur entraîneur de la Liga en 2014.
Avec nous ce soir également, alors vous avez la plateau exceptionnelle. Julien Laurent sera avec nous également dans quelques instants. David Lortolari est là aussi, mon chéri.
Salut David. C'est gentil d'avoir ramené tout ce monde pour m'écouter.
T'as vu un peu le people. Il y a Simone Rovera qui est là également, qui a pas fait de bisous en arrivant.
Non. Il est énervé.
Ah, vas-y, ouais, il est stressé.
Non, il
est loin. Il un bisou, lève-toi un peu là.
Mais on l'entend de loin surtout, Simone. Mets ton micro, Simone.
Ouais, on t'entend très mal là. Parle devant le micro.
Il est bougon, l'Inter a perdu.
Il fait la gueule depuis tout à l'heure.
Et ce soir, c'est sa première dans l'after. Alex de Castro, là, vous avez très certainement déjà entendu sur RMC Sport, puisque c'est la voix de la Liga portugaise sur RMC. Bienvenue, mon gars.
Merci, salut à tous.
Alors, si vous êtes tous là, les gars, ce soir, si Alex est là également, c'est parce que demain, il y a une journée de dingue. Vous allez sur le compte Facebook de l'After. Vous devez choisir les deux affiches que vous voulez voir demain. Demain, 13h30, il y a Tottenham Arsenal, match à suivre sur RMC Sport 1. À 18h30, il y a Gladbach Bayern, c'est pour ça qu'il y a mon Lorto.
Ben oui.
À 20h30, il y a Lazio Roma, c'est pour ça qu'il y a notre Simone. Il y a Real Barça à 20h45, c'est pour ça que Fredo est là. Et si t'es là, Alex, c'est parce que à 21h30 sur RMC Sport 1, il y a FC Porto Benfica également. Vous allez tous défendre vos affiches.
Donc, il est venu juste pour te faire plaisir, en fait.
Qui ça? Alex? T'es malade.
C'est un peu ça.
Au niveau sportif, je pense que
Est-ce que t'as aussi des slips Cristiano
comme non, je suis pas allé jusqu'à ce point.
Non, mais pas de slips. Donc, okay. Ah,
ils auraient été les caleçons Beckham. Moi, je sais plus quoi mettre. Non, mais je vous jure, parce que pendant 15 ans, j'ai mis que du Beckham.
Non, la question, c'est est-ce que Beckham a déjà mis du Fred Armel, Zordon, mais...
Peut-être qu'ils ont des copines en commun.
Il y a peut-être des vieux slips qui traînent, non?
Ah non, mais il y a une histoire, je ne peux pas la raconter.
C'est vrai.
Ah mais Simone, on t'entend pas, je te promets. Hein. Parle dans le micro, on t'entend pas. Hein.
Bah, c'est un complot là.
Non, mais il y a un problème de son, on t'entend pas, Simone.
Tu sais quoi? On a un souci technique, ce sont les impondérables du direct. Voilà, changement de micro. Regarde. Voilà.
Du coup, t'en as pas. C'est la bonne décision.
Parce que ma petite Romain. Voix préférée avec mon petit accent chéri de Simone, moi c'est
pas voilà, la même.
Tu vois? D'où? Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Micro, là.
Tiens, mon Fredo, on va commencer par toi. Demain, 20h45, 26e journée de Liga, Real Madrid, FC Barcelone. Le Barça leader qui compte 9 points d'avance sur le Real. Franchement, Fredo, il a un réel intérêt vraiment ce classico.
Alors Jérôme Thomas, notre fabuleux producteur, m'a dit qu'on devait avoir présenté 3 arguments pour vendre notre paille là. Enfin, pour mon cas,
j'étais pas au courant, donc vas-y.
Donc mon premier argument, parce que c'est un match qui a un intérêt énorme, puisque le club qui est champion d'Europe depuis 1000 jours, ça fait 1003 jours ou 1004 jours que le Real Madrid a la couronne de la meilleure compétition mondiale, la Ligue des Champions, sur la tête. Ce club, qui a gagné 4 Ligues des Champions lors des 5 dernières années, peut être définitivement éliminé de la course à la Liga le 2 mars. C'est-à-dire très hyper méga tôt. Ce qui serait une catastrophe, parce que demain, le Real ne gagne pas face au Barça. C'est 9 points, et s'il perd, c'est 12 points de retard sur le leader. Donc, autant dire que c'est totalement foutu.
Abyssal.
Donc, c'est un enjeu énorme sportivement. Deuxième argument, quand on aime le foot, quand on aime le football technique, même quand c'est un classico de petite facture, ça arrive un coup de temps en temps. Et bah techniquement, c'est au-dessus de tout ce qu'il y a. Voilà, on peut pas, il y a pas deux équipes qui jouent un football plus technique au monde. Enfin, je veux dire, c'est une confrontation. Voilà, on a tout ce qu'il y a. On a toute la palette du football. On a des joueurs exceptionnels. On est sûr de voir des gestes qu'on ne voit pas ailleurs. Voilà, c'est comme ça. Et ce match, je dis, même quand il n'est pas réussi. Et quoi qu'il arrive, un événement pour les amoureux du football. Et troisièmement, y a un petit gars qui s'appelle Léo Messi, le meilleur joueur du monde ou le deuxième meilleur joueur du monde suivant où on se place. Alors c'est vrai que Simone maintenant va me dire que le meilleur joueur du monde il joue en Italie. Enfin moi en ce moment on peut quand même dire que
c'est Messi largement.
Voilà, largement. Donc à partir du moment où le meilleur joueur du monde joue, il faut le regarder tout simplement. Voilà, c'est un spectacle qu'on ne peut pas manquer. Quand je sais pas, les Beatles faisaient un concert, on manquait pas le concert des Beatles quand tout simplement, c'est comme ça quand...
Ah bon, t'es plus Beatles que Stone toi Fred?
Ouais, bien sûr. Moi je suis un plus romantique.
Tiens, sachez, les premières estimations viennent de tomber, elles viennent de nous parvenir en direct. Vous allez sur le compte Facebook de l'After. Demain, vous ne pouvez regarder que deux de ces affiches. Sur le groupe Facebook et sur Twitter. Vous pouvez y aller également sur le hashtag RMC Live et sur le compte Twitter de l'After. Pour l'instant, vous êtes 41% à dire demain que vous allez regarder Barça Real. 38% qui va le regarder Tottenham Arsenal. 16% veulent regarder FC Porto Benfica. 4% Lazio Roma. Et seulement 1% pour Bayern Gladbach. Enfin, Gladbach, Bayern.
Simone et David, bonne soirée, hein. Vous êtes venus pour rien. Une
grosse pension. 1% avec
Gros péril, on triomphe sans gloire, les garçons.
Fred, t'aurais pu ajouter un argument, c'est que quand même, c'est...
Mais j'avais droit qu'à 3, parce que
le principal pour moi, c'est la mystique autour de ce match-là. Peu importe les époques, peu importe les joueurs, ça reste un match à regarder. Il n'y a pas à discuter pour le poids de l'histoire, pour la signification
Le paysage footballistique. C'est important. Le championnat est déjà dans la poche du Barça, donc.
Mais même, le même s'il bat, même si le Real était 18ème et le Barça premier, faudrait regarder.
Si, déjà, tu vas mieux parler dans ton micro, hein. Et deuxièmement, si tu veux qu'on joue à ça, je vais te parler des 58 ligas, Bundesliga remportées chaque année, par le Bayern des mois de décembre.
Allez, comment ça
c'est pas parce que t'as un petit peu de suspense cette année que tu vas la ramener.
Alors, juste un truc, Fredo, est-ce que le fait qu'il y ait eu un classico dans la semaine, ça enlève pas un peu du charme quand même?
Bah non, parce que ce sont deux compétitions totalement différentes.
Ouais,
et en plus, oui, parce que 3-0, alors que Real a pas mal joué, qui s'est pris 3-0 quand même chez lui, automatiquement, ça rajoute une dramaturgie.
Dans la narration, exactement. Ouais.
Mais par contre, en termes de jeu, d'un côté comme de l'autre, c'était pas non plus oufissime. Même Valverde aujourd'hui l'a reconnu que malgré le score, il y avait pas un fond de jeu incroyable du côté du Barça. Non.
Ah bah complètement. Mais c'est pour ça. C'est ça qui est dingue.
Ouais, c'est ça qui est génial.
Celui qui a joué et fait le jeu, c'est le Real. Mais c'est par ça qu'il gagne 3-0.
Très bien.
Non mais on avait vraiment le sentiment que les maillots étaient changés. C'est-à-dire que le Barça qui a gagné en contre quand même. C'est pas du tout la culture. C'est vrai que ça a évolué un petit peu depuis Guardiola. Enfin, c'est pas la culture historique du Barça. Donc demain, le Barça a aussi une revanche à prendre au niveau de l'image qu'il donne, qui est très importante pour les Catalans. C'est-à-dire jouer, gagner en contre, c'est pas bien. Ça c'est pas du côté du Barça. Et c'est vrai que tu as raison. Mais Valverde l'a reconnu. Donc demain, le Barça doit essayer de montrer une autre image footballistique que celle qu'il a offerte mercredi soir.
Merci Fredo, merci pour ces arguments. Voilà, on va passer au deuxième vendeur.
C'était bien, je crois.
Ouais, t'étais pas mal. Ouais, pour l'instant, t'es en tête. On rappelle 41%. 41% d'entre vous mettent le Barça Real en tête pour le match de demain. Regardez, on vous rappelle les quatre affiches: Barça Real, Tottenham Arsenal, Porto Benfica, Lazio Roma et Gladbach Bayern. Gladbach Bayern, pour l'instant, vous êtes 1%. À vouloir regarder ce match demain.
Et c'est pas moi.
C'est
il n'a pas voté.
C'est pas moi. On est deux, les gars.
Je peux aller voter, mais non.
Ouais, vas-y. Ouais,
bon,
vas-y.
Un petit vote de solidarité.
Ouais, je vote pour l'autre.
Ce sera demain à 18h30. 24e journée de Bouli, Gladbach Bayern. Le Bayern est à 3 points. Dortmund qui joue, qui vient de jouer d'ailleurs à Augsbourg, là. Bah, du coup, ils sont plus à 3 points, ils sont à 6 points maintenant.
Ils ont perdu. Dortmund.
Gladbach est 3e, à 8 points du Bayern quand même. Pourquoi il faut regarder ce Gladbach Bayern demain?
Oh là 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 là, mais si tu me fais parler maintenant, les autres vont plus avoir derrière les libertés de, enfin non.
Bah, t'es convaincant d'où? Tu vas tuer la compétition, là.
Trois arguments, vous m'avez demandé, je vous en donne 3. Choc au sommet demain de la Bundesliga. Choc au sommet. Alors l'enjeu est maximal. Fred parlait d'enjeu tout à l'heure pour l'Espagne. On est pas mal non plus en Allemagne. C'est la dernière chance pour Gladbach de remporter le titre. Vous savez que c'est mon poulain, moi, depuis le début de la saison. Poulain, Gladbach, c'est le surnom des joueurs du club. C'est me suis?
Ouais.
C'est beau, ça.
Dernière chance pour Gladbach, donc, de revenir avec la défaite de Dortmund hier et en battant éventuellement le Bayern, de revenir vraiment dans la course au titre de façon sérieuse. Occasion rêvée aussi pour Alassane Pléa, qui a été si bon, le français, en première partie de saison.
de se réveiller, de frapper à nouveau à la porte de Didier Deschamps et de se réveiller au bon souvenir aussi du public français qui le suit pas forcément jour après jour en Allemagne. Occasion rêvée aussi pour le Bayern de recoller à égalité de points avec Dortmund. Il y avait 9 points d'écart il y a encore pas si longtemps, il y a quelques semaines entre les deux. Et puis incertitude dans ce match-là, mine de rien, c'est quand même très équilibré parce que je vais vous citer rapidement 6 joueurs qui sont absents côté Bayern demain. Pas de Ribéry, pas de Robben, pas de Klinsmann comment, pas de Goretzka, pas d'Alaba qui a une inflammation aussi au talon et pas de Tolisso. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un match potentiellement équilibré. Premier argument donc, ce choc au sommet.
Ça donne pas trop envie par contre, rien que le fait qu'il n'y ait pas Ribéry déjà par rapport au public français.
Tu crois que l'équipe du Bayern n'a pas belle allure? Je te conseille de regarder demain parce que
non, je parle vis-à-vis du public français. Le fait qu'il n'y ait pas Ribéry, c'est peut-être pas forcément un très bon argument de vente.
Ah ben oui, mais alors si le public français ne regarde que les joueurs français, c'est un peu tristounet. Hein.
Alors
français,
deuxième argument, vas-y.
Deuxième argument, allez. C'est un match qui sent un peu le soufre et en Allemagne, on aime bien s'envoyer aussi quelques petites piques parfois par la presse interposée. Là, il y a même pas besoin de la presse. Il y a eu 3-0 pour Mönchengladbach à l'aller à Munich. Et le sorcier Ekking, entraîneur de Gladbach, avait fait du poker, avait annoncé que sa star Lars Schindel serait pas sur le terrain. Finalement, il l'avait aligné. Il nous annonce la même compo d'équipe que lors de la victoire de Gladbach à l'aller demain. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis côté Bayern, Rafinha, le défenseur brésilien, a attaqué frontalement cette semaine son entraîneur Kovac, qui lui a renvoyé le boomerang dans la figure en disant c'est pas bien ce qu'a fait Rafinha. Il l'a titularisé, il sera titulaire quand même demain Rafinha. Donc il y a des joueurs qui vont avoir aussi une envie de revanche. Et puis dernier argument, c'est celui qui pèse le plus lourd. Fred parlait de l'histoire entre le Real et le Barça. Il y a une histoire, il y a une légende entre ces deux clubs là pour les nostalgiques, pour ceux, parce que moi je m'intéresse pas qu'aux jeunes parmi nos suiveurs, mais aussi aux pères de ceux-là. Si je vous dis côté Gladbach Bertie Vogts, si je vous dis Günther Netzer, si je vous dis Rainer Bonhof, côté Bayern, si je vous dis Franz Beckenbauer et Gerd Müller, eh bien figurez-vous que cette légende, elle continue aujourd'hui. Et ces deux clubs là, c'est peut-être, allez je m'avance un peu parce qu'il y en a quelques autres, mais c'est peut-être les deux clubs les plus historiques, ceux historiquement qui pèsent le plus en Allemagne.
Ok. Alors c'est vrai que tu le disais, finalement la défaite de Dortmund ce soir,
ça nous arrange pour demain. Voilà.
Bah justement, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Dortmund ce soir là? Défaite 2-1 à Augsbourg.
Dortmund, alors on avait eu un signal d'alerte avec la victoire, avec la difficile victoire du Bayern contre Augsbourg, le voisin bavarois, 3-2 récemment. Augsbourg avait beaucoup inquiété le Bayern. Et bien ce soir, Augsbourg a fait encore mieux avec un jeune gardien, Kobel, qui a fait des miracles. Ça aide beaucoup quand même quand on fait un résultat chez un gros. Et puis avec un attaquant très très intéressant, le coréen G, qui avait déjà marqué d'un superbe but contre le Bayern, qui a récidivé ce soir, doublé. Et le Borussia Dortmund, qui va mal en ce moment, s'est fait surprendre. On aura l'occasion d'en reparler évidemment lundi dans l'after, en prévision du match contre Tottenham. Mais Dortmund est vraiment dans une mauvaise phase. Et
un coup de mou physique un peu, non, on a l'impression.
Ouais, ça se rapproche un peu en tête du classement. Ça nous arrange pour le suspense en Bundesliga, parce que du coup, comme je le disais, ça fait 3 prétendants au titre. Dortmund qui est quand même encore leader, le Bayern qui se rapproche et Gladbach qui a encore un coup à jouer.
Ils reviendront à un point s'ils gagnent le Bayern.
Si le Bayern gagne, ils reviennent à égalité.
Alors, à un moment, ils étaient un peu décrochés. Bayern Dortmund dans 4 journées.
Eh oui.
Et ils étaient un peu décrochés en plus, le Bayern, à un moment.
Ouais, il y avait 9 points d'écart, et là, on retrouve un suspense plutôt insoutenable.
Bon, ça, pourquoi pas.
Bah, alors, en fait, tu veux dire, tu veux nous dire qu'on retrouve le fait qu'il n'y aura pas de suspense.
Bah, pour l'instant, il y en a.
Parce que c'est le Bayern qui revient.
Est-ce qu'on peut donner des rames à Simone pour essayer de...
Ah bah attends, il va arriver. Non, mais attends, on va le laisser se noyer encore un petit peu. Non. On va écouter les arguments d'Alex de Castro, puisque demain, 21h30, il y a le Classico au Portugal entre le FC Porto et le Benfica. Un point d'avance pour le FC Porto, leader tenant du titre, sur le Benfica. Tes arguments, pourquoi demain faut regarder le Classico, Alex?
Mais tu me lances parfaitement avec ce point d'avance, parce que en termes de dramaturgie, en termes de suspense, je pense qu'on peut difficilement faire mieux que ce Classico de demain. Il faut savoir que Porto a très longtemps survolé ce championnat portugais. Ils ont eu une série de victoires impressionnantes, 18 consécutives, toutes compétitions confondues, 16 points aussi au terme de la phase de poule de Ligue des Champions. Et au final, ils sont à un seul point dorénavant. Ils en avaient 8 d'avance il y a quelques semaines. Et là, Benfica est revenu très très fort depuis le début 2019, avec un changement d'entraîneur, Bruno Lage, qui vraiment a lancé des jeunes, a relancé des joueurs qui étaient un petit peu en difficulté. Et vraiment, ça nous donne un spectacle. Il y a énormément de buts marqués par Benfica. Ça va être une grosse opposition de style entre ces deux équipes, entre la meilleure attaque du championnat, Benfica, la meilleure défense, le FC Porto.
Tu vas devoir dévoiler ton vrai visage.
Pourquoi? Ah bah moi, ils le savent, je m'en tape maintenant, moi, de tout ça. Non, mais je te jure, c'est vraiment pour le coup. Il y a d'autres choses ou pas? Qu'est-ce qui donne d'autres arguments pour voir ce match demain?
Oui, bien sûr. Déjà, il y a pas mal de joueurs à voir jouer. Je pense notamment à des joueurs comme
22.
J'ai dit 22, mais
22. Oui,
vous avez même van les deux là.
De très bons joueurs. Forcément, on sait que le championnat portugais, c'est un championnat tremplin où on voit à chaque fois et d'énormes de joueurs d'énorme qualité qui vont forcément après vers les plus grands championnats. Donc tant qu'à faire, prenons un petit peu d'avance et admirons déjà des pépites comme João Félix, par exemple, du côté de Benfica, ouais, qui a tout juste 19 ans.
La hype en ce moment, c'est
clairement, mais la hype est méritée. La hype est très méritée, ce qu'il réalise depuis. Ce qu'il réalise depuis quelques semaines, c'est quand même assez exceptionnel en termes de maturité de jeu, en termes de technique, en termes de spectacle. Vraiment, ce gamin, il a tout. C'est vraiment très, très, très sérieux. On en a vu des cracks annoncés
portugais.
Les gens disent
que c'est le plus grand talent depuis Cristiano.
Ben, je suis vraiment d'accord.
Ou après, on en a entendu d'autres, là-dessus,
Mais bon. Mais en termes de maturité, déjà, je trouve que pour l'âge qu'il a, c'est assez impressionnant. Il joue très, très juste. Contrairement, justement, aux jeunes joueurs portugais qui, généralement, ont tout le temps tendance à surjouer, à vouloir se la jouer un petit peu comme Ronaldo à ses débuts avec plein de gris-gris. Lui, non. Au contraire, c'est toujours dans le sens du jeu. Et en même temps, il fait le spectacle et c'est efficace. À 19 ans, je trouve ça exceptionnel de mélanger les trois. Après, il y a des joueurs un petit peu plus connus. Je pense à Yassine Brahimi, qui s'est bien affiné, qui est
Il y en a un que t'as pas cité encore.
Ah, il en a pas mal.
Il y en a un autre que Fred va être heureux de revoir parce qu'il va le regarder, ce classico demain. Bah, c'est Pep.
Bien sûr.
Le grand retour de Pep à Porto, Manfredo.
Qu'on appelait Pepe ici. Bah oui.
Si tout se passe bien, enfin peut-être pas lui, mais un autre. Enfin, il y a rarement un classico se termine en 11 contre 11 au Bled. Il y a toujours un rouge.
Oui, surtout avec Pep, la probabilité augmente encore un petit peu plus. Surtout qu'en plus, il le disait il y a pas longtemps, il voulait revenir à Porto pour retrouver la mystique de ce club. Et on sait qu'il y a des valeurs guerrières dans ce club du FC Porto, donc on peut mettre un petit billet sur le rouge de Pep.
S'il y a de la baston, moi, ça me donne envie de regarder.
Ça peut être marrant aussi. Ouais.
Ok, voilà.
Et puis après, il y a aussi
deux autres grands joueurs
qu'il faut surveiller particulièrement. C'est Alex Telles du côté de Porto et Alex Grimaldo du côté de Benfica. Qui pour moi sont deux des meilleurs arrière-gauches du moment en Europe.
Mais les deux, Grimaldo, je trouve.
Grimaldo, je connais pas.
C'est quoi? Si c'était pas pété, il serait aujourd'hui à City, puisque Guardiola voulait le faire revenir du côté de Manchester City. Merci pour tes arguments, Alex de Castro. Vous continuez de voter.
Elle a bien donné
les deux affiches demain que vous voulez regarder.
C'en est où là? Je suis tendu.
Bah, je sais pas. On va dans trois minutes, j'aurai les nouveaux résultats actualisés. Manfredo, bien entendu. Moi, je sais, le suspense est insoutenable.
Pas si prétentieux.
Vous étiez 4% il y a quelques minutes à vouloir regarder le derby romain entre la Lazio et la Roma demain. Mais que passe, Simone? Et l'argumenti?
À mon avis, les sondages sont truqués.
On est d'accord.
Faut le dire.
C'est problème, Simone Romena Italia qui dit ça, j'adore. Ouais, voilà.
Mais non, mais à mon avis, c'était mis mal, tu dois voter, mais c'est les dernières à droite. Il y a, au fond, tout au fond, tu trouves l'allemand et l'italien. Simone, et tu n'arrives pas à trouver.
Là aussi, il y a un gros suspense. Ils sont tous les deux comme à 25 points à peu près de la Juve. Donc là, le suspense est total. Pour le titre.
Là, tu montres de connaître rien vraiment dans l'histoire de ces derbies.
La Lazio est huitième, la Roma, ils sont cinquième. Alors, ils sont qu'à un point de la quatrième place, l'a dit la Roma. Donc,
voilà. Déjà, il faut contextualiser dans les objectifs de cette saison. Les deux clubs rêvent en place en Ligue des Champions. Ce soir, avec la défaite fracassante de l'Inter à Cagliari, pour la Roma, il y a un jeu énorme. C'était de remonter dans les quatre premières places et donc de faire sortir l'Inter de cette top 4. Pour la Lazio, c'est les dernières occasions de rester dans la lutte pour la Ligue des Champions. C'est un derby qui vaut énormément au classement. C'est un derby qui vaut énormément pour les deux équipes. Il n'y a pas seulement une qui doit chercher un objectif. C'est les deux qui sont à la recherche de quelque chose d'important dans leur saison. Ni la Roma ni la Lazio vont gagner quelque chose cette année. Au moins, pour la Lazio, c'est très compliqué avec la demi-finale des Coupes d'Italie. Pour la Roma, il y a un petit espoir de faire un exploit incroyable en Ligue des Champions. Mais c'est pas gagner la Ligue des Champions, leur objectif, c'est arriver quatrième. Donc, déjà, les enjeux pour ces matchs sont très importants. Après, il y a une chose que nous tous aimons dans le football. C'est-à-dire, les bagarres, les cartons rouges. Roma-Lazio, c'est les matchs en Serie A qui a plus de cartons rouges. Donc, demain, tu m'as bien vendu.
Simone, c'est du même acabit que ce qu'on disait pour Real Barça. Ça fait partie des matchs, quand t'aimes le foot, tu le regardes, point barre. Peuvent être 18e et 19e du classement. C'est la même chose. Pour le regarder.
Attends, le fait qu'il n'y ait pas Totti et tout, ça enlève pas aussi un peu de la symbolique du match?
Tu changes des symboles. Simone, il y aura des Rossi sur le terrain.
Mais bien sûr que tu changes des symboles. Là, quand j'ai dit... Pour rigoler, c'est le match qu'on aime les cartons rouges. C'est vrai que c'est le match qui a plus de cartons rouges dans les 25 dernières des Serie A. Et c'est aussi un des matchs qui a plus de cartons. Qui est le joueur qui a pris plus de cartons dans cette dernière histoire? C'est bien sûr Daniele De Rossi.
Mais ce qui manque, c'est un match pour les esprits forts. C'est des vrais Romains, tu vois. Dans l'équipe de Rome, cette année, j'ai l'impression qu'il y a moins... de joueurs qui sont vraiment, tu vois, des vrais romanistas, quoi. C'est ça qui donne un peu le sel au
derby. Des vrais romanistes d'origine.
À part de Rossi.
T'as des Rossi, t'as Florenzi.
C'est vrai. Il y en a deux.
Il y a une histoire, quand même, liée aux joueurs. Il n'y a pas toujours eu 10 joueurs de la romaniste dans l'équipe de la Roma. Il y a certains joueurs qui représentent, quand même, cet esprit des combats du club Giallorosso. Et je trouve qu'il y a quand même encore des très bons joueurs à voir. On a, dans l'un de l'autre équipe, il y a, c'est la possibilité de se relancer pour Milinkovic-Savic, pour Luis Alberto, pour Ciro Immobile, du côté de la Lazio. Parce que, j'arrive pour cette troisième point, qui pour moi est le plus important pour ceux qui aiment l'histoire de Roma-Lazio et pour qui aiment les footballs italiens. Une derby vaut une saison. Le derby de Roma vaut la saison en Serie A pour les deux clubs. La Roma a déjà gagné les matchs aller, gagner les retours quand même, ça devrait mettre vraiment les mots fin à la saison de la Lazio, qui oui, a encore cet petit espoir en Coupe d'Italie, mais c'est-à-dire, c'est un match à part dans les championnats d'Italie, parce que si tu gagnes les deux derbys de Roma, t'as gagné la saison. Donc, c'est un enjeu en plus dans l'esprit de la ville, dans l'esprit d'une ville qui adore le football à un point que seulement les Romains peuvent comprendre, parce que ça, c'est quelque chose qui se vit 24 heures comme nulle part en Italie. Donc, c'est le derby le plus chaud d'Italie. Il n'y a aucune raison de changer des chaînes. Il n'y a aucune raison de ne pas écouter l'afterfoot. Il n'y a aucune raison de ne pas écouter les commentaires en direct. C'est les matchs qu'il faut suivre. Pourquoi vous avez voté les autres? Mais que cosa votate?
Ouais, c'est l'occasion de voir aussi Zaniolo qui est, putain, c'est un beau petit joueur quand même, ça.
Juste Ludo, toi si tu devais choisir deux matchs, voilà, on vous rappelle, hein, le scénario. Vous êtes à la maison. Vous êtes à la maison avec, votre meuf ou avec votre mec. Vous avez négocié deux matchs pour samedi demain. Vous pouvez en regarder que deux.
Alors les amis, je vais vous donner.
Lesquels tu choisis, toi?
Les amis, je vais vous donner une autre solution. Il y a
13h30. Il y a Tottenham Arsenal. On sera avec Julien Laurence dans
ensuite,
quelques instants.
Ensuite, à 18h, il y a le Bayern.
Ouais. Mais après, il y a des matchs qui changent.
À 20h30, tu regardes un quart d'heure de... Après, tu regardes la totalité de Barça-Real. Et tu finis un petit quart d'heure de...
Mais si tu devais en choisir.
Qu'est-ce qu'il va choisir? Barça-Real.
T'as pas le droit.
J'ai pas le droit?
Non.
Ben, je vais choisir Arsenal-Tottenham.
Non. Et l'autre?
Et l'autre, tu verras, Simone, c'est sûr.
Voilà. J'étais là pour le menacer et par contre, il m'a tapé les poings.
Pas de classico, aucun des deux classico.
Je suis pas branché football portugais, donc j'ai pas suivi
c'est
la
peut-être ça le problème. Après, ça met des leçons de morale aux entraîneurs de Ligue 1.
Mais si tu veux, il me donne pas envie, qu'est-ce que je te dise?
L'Italie. Non. Tu t'offres un pizza pour le match. Mais... Oui.
2% pour la Roma du coup maintenant. Dans quelques instants, on sera avec Julien Laurence qui va nous parler justement de ce Tottenham Arsenal, parce que là aussi il va être très très chaud. Les Spurs qui sont pas du tout au top, et puis Arsenal, prochain adversaire du Stade Rennais en Europa League à partir de ce week-end. On vous fera gagner des places sur RMC pour aller voir ce 8e de finale d'Europa League entre Arsenal et Rennes. On vous dit à tout de suite avec Ludo Bragnac, avec Jonathan Macardy. Vous partez pareil les mecs. Ouais.
C'était beau.
Ciao. Bah les gars, merci beaucoup.
On a télé nous.
Merci les gars. Changer de plateau les gars. C'est ça.
Salut à tous.
J'ai pas des chaînes ou s'il doit changer. Coutissime.
Allez, à plus ciao. Les gars, merci, à tout de suite.
Ciao.
RMC Football Show. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
En compagnie de Domenico Bragnac et de Jonathan Macardy. Tu aimerais bien être mon cousin.
Ouais, exactement.
Avec Fred Hermel également qui est avec nous. Je vais trouver une cousine qui traîne quelque part. Ou un cousin d'ailleurs.
La pauvre.
Ah ouais, pas mal de cousins.
La pauvre.
Ouais, je pense. Ou le pauvre. D'ailleurs. Fred Hermel est toujours avec nous.
Oui.
Julien Laurence nous a rejoint. T'es là, Julien?
Salut à tous.
Comment
je suis
tu
là,
vas, Julien?
C'est Julien.
Super, merci.
Alors, on vous rappelle ce petit jeu-là qu'on vous propose ce soir. Demain, il y a plein de grosses affiches demain. Vous pouvez en choisir que deux. Voilà, vous avez négocié ça avec votre compagnon ou votre compagne. Barça Real termine en tête avec 41% des votes. Demain, il y a Arsenal Tottenham, deuxième avec 28% des votes. FC Porto Benfica, 15% des votes. Lazio Roma, 9%. Bayern Mönchengladbach, 7%. Julien, on t'a pas encore entendu sur le sujet, mais demain à 13h30, il y a le North London Derby entre Tottenham et Arsenal. Pourquoi il faut le regarder ce match demain, Julien?
Alors il faut le regarder déjà parce que c'est un match chargé d'histoire, hein. C'est le 198e match entre Tottenham et Arsenal. C'est un vrai derby, hein, pas comme les derbies fabriqués là entre Barcelone et le Real Madrid et tout ça là. C'est un vrai match où les deux clubs. C'est vrai, les deux clubs sont.
C'est combien de divisions, hein, ton match là, c'est combien de divisions, je veux dire, c'est combien de Ligue des Champions entre les deux?
Ah, tout de suite. Non, mais tout de suite.
Non, mais t'attaques.
Je te parle distance, mon Fredo. Je te parle d'un vrai derby, c'est club de la même ville.
Ligue des Champions, on compte cet Arsenal et cet Olympique, c'est combien de Ligue des Champions?
C'est 0 et 0. Ça fait
la tête à Toto.
Bah, cela dit, il y a une régularité, hein, dans les résultats.
Exactement.
C'est ça, tout à fait. Ils sont au même niveau. En tout cas, à ce niveau-là, ils sont au même niveau. Un vrai derby.
Ligue des Champions entre deux.
Allez, Fred, arrête de troller Julien. Laisse-le finir. Vas-y, Jules.
Vrai derby avec beaucoup d'histoires, hein. Tout à l'heure dans Footissime, sur RMC Sport 1, on parlait du match de 2004 avec 9 buts, cette victoire 5-4 exceptionnelle d'Arsenal à White Hart Lane. Donc voilà, beaucoup d'histoires entre les deux clubs. Ensuite, parce que, on est sûr de voir des buts entre Tottenham et Arsenal. On avait vu 6 lors du match aller à l'Emirates. C'est la 3e meilleure attaque Tottenham contre la 4e meilleure attaque de Premier League Arsenal. C'est le 3e meilleur buteur Aubameyang contre le 4e meilleur buteur Harry Kane. Donc tu sais qu'à coup sûr il y aura des occasions, il y aura des buts, il y aura du spectacle, il y a aucun doute là-dessus. Et puis le dernier point, c'est parce que mathématiquement c'est un match très très important. Il y a que 4 points d'écart entre Tottenham 3e et Arsenal 4e. En cas de victoire des Gunners, ils reviendraient donc à 1 point de leur ennemi juré. Derrière, on a Manchester qui pousse aussi, Chelsea qui a un match de retard, qui pourrait également faire de cette course à la 4e place, qu'on pensait à la 4e place, et ça pourrait devenir une course à la 3e et 4e place avec Tottenham, Arsenal, Manchester United et Chelsea.
Mais c'est vrai que là, à moins de 10 journées de la fin en Premier League, Julien, il est vraiment excitant le championnat cette saison, parce que pour le titre, c'est loin d'être joué entre City et Liverpool, et c'est vrai que la course à la Ligue des Champions, elle est très tendue aussi, en plus avec des clubs qui, c'est vrai, sont rivaux finalement. Là, on parle de Tottenham-Arsenal, c'est un vrai derby pour le coup, hein.
Ouais, tout à fait. On a eu mercredi un Chelsea-Tottenham qui est un derby de Londres, même si Tottenham est au nord de Londres et Chelsea au sud-ouest. Mais c'est deux clubs qui se détestent, avec des supporters qui se détestent vraiment. Et ce qui est intéressant aussi, comme tu dis, dans la course au titre, alors on a eu déjà les deux Manchester City-Liverpool. C'est un peu dommage qu'on ait eu le deuxième Manchester City-Liverpool trop tôt dans la saison, le 3 janvier. Mais sinon, il te reste encore un Arsenal Manchester United, par exemple, le dimanche 10 mars. T'auras encore Tottenham qui va aller à Liverpool et à Manchester City. Tu vas encore avoir aussi un derby de Manchester entre United et City. Donc t'as encore tous ces gros matchs qui arrivent, qui vont être déterminants dans la course au titre, dans la course à la 3e et 4e place. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, hein, à 10 journées de la fin, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de suspense pour autant de positions, en fait.
Ouais. Toi, tu l'avais mis parmi le premier match que tu voulais voir, même d'ailleurs, Ludo, ce Tottenham-Arsenal.
Non, peut-être pas le premier. Fred, il joue sur du velours. Le Real-Barça, c'est le match que tu as envie de voir parce que tu connais l'antagonisme qui est entre les deux, l'intensité que l'on peut voir. Et forcément aussi, il y a Messi, il y a la réaction attendue du Real. Cette première période qui nous laisse sur notre faim, on a envie de voir justement si le Real a la capacité de pouvoir faire mieux, ou du moins de réagir, parce que perdre deux fois de suite contre le Barça, je suppose que c'est pas quelque chose d'acceptable du côté de Madrid.
Stade, hein, à 3 jours de différence.
Et puis de l'autre côté, on a aussi le derby de Londres, qui est un derby qui tient souvent ses promesses. Et puis pareil, avec Tottenham qui est devant pour l'instant, mais j'ai l'impression que Tottenham est mieux dans la peau du chasseur que du chassé. Donc ça serait intéressant de voir comment ils vont gérer leur petite avance, et puis Arsenal aussi capable, j'ai envie de voir s'ils sont capables de passer l'étape supérieure, s'ils sont capables d'aller
et justement, puisqu'on parle de Tottenham et du fait que ça aille pas très bien, là la question, elle vous concerne tous les deux, Julien et Fredo. On sait que du côté du Real Madrid, il pourrait y avoir du changement l'été prochain. Vous voyez où je vais en venir ou pas? Pochettino, tout ça, Real Madrid.
Ouais, bien sûr.
Il fait partie d'un nom qui circule depuis très très longtemps, et puis il a très bien fait ça. C'est-à-dire qu'à un moment, son nom circulait du côté du Barça, et il a devancé en disant « Moi, je suis de l'Espagnol, pas question d'aller au Barça, quoi. » Bon, il sait très bien qu'il y a le Real Madrid qui est une option possible, donc il a une communication parfaite depuis des années à ce niveau-là. Après, il faut peut-être montrer un peu plus avec Tottenham, parce que il commence à avoir une petite réputation, et là, je pense que Julien va me dire la même chose, de garçon pas tellement ambitieux, un petit peu loser quand même, non? Ça, depuis quelques temps.
Tu as raison, Fred, ouais.
Hein, c'est à un moment, c'est génial, ça joue bien, mais ça gagne, ouais, ça gagne
rien.
Pas petite, quoi.
Ça gagne rien. Exactement. Ça gagne rien pour l'instant. Et aujourd'hui, on l'a vu en conférence de presse, il t'envoie des signaux un peu paradoxaux, en fait, parce que il est d'un côté, il dit, mais regardez, on est troisième avec avec les joueurs qu'on a, le budget qu'on a, les financièrement, les dépenses qu'on fait, c'est quand même super bien d'être là où on est. Et puis d'un côté, il dit oui, mais ça c'est un match important contre Burnley parce qu'on peut revenir dans la course au titre, on peut montrer qu'on est là, qu'on fait partie des meilleurs avec City, mais avec Liverpool. Et puis
il a pas dit aussi que Tottenham pour être champion dans 10 ans, un truc comme ça. Il a pas dit un truc dans le genre.
Ouais, il a dit que c'est vrai que après la défaite à Burnley justement, qu'il faudrait 5 à 10 ans pour les amener tout en haut. Donc mais tu vois, c'est vraiment pas, tu sais pas vraiment, il dit tout et son contraire, il dit oui, on fait partie des meilleurs, mais en fait c'est très bien d'être troisième, c'est pas grave si
mais
on gagne rien,
qu'il en a
mais
d'un côté il faut gagner. Là, qu'il a fait le tour du truc.
Ah, il est en fin de cycle hein.
Moi je pense qu'il veut passer l'étape supérieure, et l'étape supérieure c'est un club qui va lui permettre de dépenser beaucoup d'argent pour recruter des joueurs. Faut pas oublier quand même que en janvier ils ont recruté personne à Tottenham, bah oui. Et l'été dernier ils ont recruté personne non plus. C'est très rare aujourd'hui dans un grand club d'être un grand entraîneur et d'avoir zéro argent à dépenser. Et je pense qu'à un moment ça va le saouler et
bah, grâce à Zidane il va pouvoir le faire.
Et Julien, est-ce que tu peux nous parler du vrai match qui a tenu en haine l'Angleterre qui vient de se terminer, la masterclass de Leeds à West Brom avec Bielsa qui récupère la première place de Championship.
Ouais, il en avait besoin, hein, Marcelo, oui. Parce que les dernières rencontres avaient pas été super. C'est vrai qu'ils étaient redescendus à la troisième place du championnat et ils jouaient contre le quatrième West Brom ce soir. Et voilà, ils ont vraiment très bien joué. On a retrouvé toutes les composantes du jeu de Bielsa, le pressing haut, l'intensité, le jeu, la verticalité. Mm. C'est vrai que c'est très beau à voir. C'est une équipe qui est très belle à voir, hein, quand elle est dans un jour comme ce soir.
Avec un très grand Pablo Hernandez.
Pablo Hernandez. Et puis ils ont beaucoup de jeunes joueurs comme Tyler Roberts, par exemple. Ils sont très forts.
Juste, Julien, pour revenir.
Pablo Hernandez, l'ancien de Valence.
Tout à fait.
Ah, je savais même pas qui
il est avec Bielsa, ouais, c'est un des tauliers de Bielsa.
Bon joueur.
Julien, pour revenir là au Tottenham Arsenal, bon, il y a dans quelques jours, il y a l'huitième de finale d'Europa League face à Rennes. Qu'est-ce qu'on en dit de Rennes en Angleterre, là?
Rien.
Merci Julien. Mais il a raison d'être honnête. Les Anglais ne regardent rien en dehors de leur nombril.
Mais oui, c'est vrai. Tu as raison, Fredo. Tu as raison. Non, ce qui les fait beaucoup rire, c'est Salma Hayek. Il trouve ça super marrant que Salma Hayek soit là dans les tribunes. À Rennes, la superstar hollywoodienne, que le propriétaire soit aussi le propriétaire de Gucci, ça les fait beaucoup rire aussi. Voilà. Mais après, pour l'instant, non, ils sont très loin de ça. On verra. Je pense pas qu'on voit beaucoup d'articles ou de reportages sur Rennes. Malheureusement, pour les Rennais, dans les jours qui vont précéder la rencontre contre Arsenal, parce que tout le monde est très focalisé forcément sur la Première Ligue, comme on l'a dit. Il y a des gros matchs ce week-end, il y a des gros matchs le week-end prochain avec le Arsenal Manchester United par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a des champions aussi avant.
Jérôme Thomas m'adresse un petit message. Fred, t'as déjà pris une claque toi avec le Betis. La prochaine elle est pour toi, Julien, visiblement.
Je sais que notre producteur chéri est un grand supporter rennais, mais et je lui souhaite le meilleur. Hein, mais c'est vrai que pour l'instant, pour être honnête, non, on parle pas beaucoup de Rennes à part effectivement quelques détails que les Anglais trouvent amusants.
Mais on va parler d'Arsenal avec Benjamin, supporter des Gunners, qui nous a appelé au 32-16. Salut Benjamin.
Salut, bonjour à tous.
Salut.
Ça va Benjamin? Salut.
Ça va très bien et vous?
Bon, parle-nous un peu, toi. Comment t'as réagi quand t'as vu le tirage d'Europa League? Déjà que les Anglo-Anglais s'en foutent.
Moi, j'étais un peu déçu parce que je suis supporter des clubs français. Du coup, je pense que Arsenal va passer face à Rennes. Donc, je serai supporter d'Arsenal parce que je suis supporter d'Arsenal de base. Mais je pense que ça va être un beau match. Mais je vous trouve très confiant quand même pour Rennes. Parce que je pense qu'il y a aucune comparaison possible entre les deux équipes.
Bon, chambre,
je pense que Arsenal logiquement, devrait s'imposer... assez facilement parce que je trouve qu'Arsenal est vraiment largement supérieur au Betis et Rennes a eu sur l'ensemble de deux matchs un peu de mal quand même, enfin beaucoup de mal face au Betis, donc je pense que ça va être très 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 compliqué pour eux de battre Arsenal en tout cas.
Et le derby là de ce week-end, comment tu le sens?
Je le sens mieux que l'année dernière en tout cas, où Arsenal sortait d'une série de défaites, enfin où Arsenal avait perdu près de 10 matchs à l'extérieur sur l'ensemble de la saison. Là ils sont sur une bonne série, Tottenham vient de perdre 2 matchs, donc c'est vraiment l'occasion pour une fois pour Arsenal de gagner enfin à Tottenham, parce que c'est pas arrivé depuis pas mal d'années, parce qu'il reste sur 3 défaites je crois en consécutive à l'extérieur face à Tottenham dans les 3 dernières saisons. Surtout avec le retour d'Ozil depuis 3-4 matchs qui revient fort, la Lacazette, Aubameyang qui arrête pas de marquer, donc on s'attend à un match intéressant et pourquoi pas un coup à Tottenham.
Ton avis tient sur Unai Emery, parce que c'est vrai qu'on en a énormément parlé au cours de cette saison. Qu'est-ce que t'en penses toi de la patte Emery à l'après Wenger, etc.?
Je pense que il essaie d'apporter son expérience. Je pense que son management de certains joueurs, notamment du rôle d'Ozil, est pas bon. Je pense qu'il devrait donner plus de pouvoir à Ozil, qui techniquement est largement supérieur à tous les joueurs.
Ouais, mais physiquement c'est dur, hein, Benjamin. Sur les matchs à intensité, etc., c'est compliqué quand même.
Ouais, c'est dur, mais je trouve que au milieu de terrain, il nous manque quand même une patte technique, un type qui voit, qui a une vision de jeu exceptionnelle. Et ça, Ozil, je trouve là, alors c'est très irrégulier, mais Xhaka, Torreira, pour l'instant, Torreira, c'est un super joueur, mais c'est encore un peu mince. Je trouve qu'il n'est pas encore assez expérimenté. Xhaka, c'est une catastrophe. Et les autres, je trouve qu'ils sont pas assez, ils sont pas aussi forts que Ozil. Et donc Ozil, je pense qu'il faut le choyer pour lui montrer qu'on a besoin de lui.
Mais quoi. Pourquoi si on tu parles de Lucas Torreira et de Mesut Ozil? C'est pas du tout le même profil.
Non, c'est pas le même profil, mais je veux dire que.
Et Lucas Torreira, Arsenal est jusqu'à un moment de la saison était très dépendant de lui par rapport pour faire des résultats.
Moi en ce moment,
il est quand même prépondérant dans l'équilibre défensif de l'équipe.
Bien sûr, mais Emery lui accorde une confiance assez irrégulière, je trouve, parce que Torreira joue pas tous les matchs, alors que c'est le meilleur joueur au milieu de terrain. Donc je comprends pas trop sa gestion du cas Torreira.
Bah oui, moi aussi, c'est assez bizarre, parce que pour moi,
après, c'est pas mal tourné, Emery. Hein, ouais. Il joue plusieurs compètes. Puis même
Ramsey, je trouve, qui est un super joueur, je trouve, qui le met sur le banc dans certains matchs importants. Je comprends pas forcément sa gestion de Ramsey, qui va partir à la fin de l'année. Il reste quand même un excellent joueur. Et je comprends pas non plus, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il a mis pas de la casette Aubameyang tout le temps ensemble. Comme la semaine dernière face à Bournemouth où on gagne 5-1, mais la caisse d'Aubameyang ensemble c'est 60% des buts d'Arsenal. Donc
Julien, c'est vrai que tu l'as cité là, Benjamin, mais le cas Özil, il est toujours aussi compliqué du côté d'Arsenal, Julien.
Faut arrêter.
Ouais, c'est intéressant, hein. C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que sous Wenger il y avait. Non, je sais Fred même pas. Sous Wenger, il était presque intouchable parce que c'était Wenger et que Wenger c'était sa manière de fonctionner.
C'est un intermittent du spectacle, Mesut Ozil.
Ouais, non mais ça, mais après ouais, ça. Mais tu peux pas remettre en cause le talent, c'est impossible.
Ah bah
parce que le talent
non,
il
non,
est
mais
c'est
après mais c'est ça qui est terrible. C'est qu'avec un tel talent, t'as pas le droit de le
gâcher. C'est tellement frustrant.
Non, mais c'est vrai, je suis d'accord
avec
toi.
Parce que c'est techniquement, mais c'est tellement au-dessus, quoi. Moi, je l'ai vu au Real. Mais vous savez, le jour où Higuaín et Ozil sont partis, le Real a gagné avec des champions. Non, mais vraiment, tu sais, parce que Ozil, c'est le mec. Alors, je vais me faire insulter par les gens d'Arsenal. Mais Ozil, finalement, il est bien dans un club qui a pas besoin de gagner. Parce que pour lui, Ozil, c'est pas un gagneur, c'est pas quelqu'un qui a cette mentalité, de vouloir se surpasser. C'est-à-dire, c'est, alors je même
non mais ça
c'est
pas
une fenêtre de Cristiano Ronaldo
confort. Mais ce qui est
voilà,
intéressant
alors,
Fredo,
vous savez ce qui se passait, pardonne-moi de te couper, ce qui se passait à Madrid quand
vous
même.
Jouez à la PlayStation.
Il allait tous les soirs à Milan quoi. Plusieurs fois par semaine, on s'est rendu compte qu'il allait passer de la nuit à Milan voir sa copine. Ça en jet privé dans le dos du Real, il sortait
de l'entraînement. Ouais, le romantisme comme ça devrait te toucher un peu.
Bah non. Non, parce que quand le match de et l'amour de millions de supporters de par le monde dépend de ce que tu fais, voilà, il y a un minimum quoi. Je veux dire le type il a un rôle social en tant que joueur de foot, mais c'était terrible quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui a gâché un talent extraordinaire et puis avec un père qui venait frapper tous les trois jours à la porte pour demander plus d'argent. Enfin c'est du n'importe quoi. Enfin et je pense que finalement si Arsenal et dirigeants d'Arsenal avaient tant de problèmes avec lui encore cette saison. Il voulait pas partir il y a 3 semaines, un truc comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Julien?
Non, mais il a eu un nouveau contrat.
Arsenal voulait le virer, c'est ça.
On nous rappelle son salaire.
Voilà, c'est ça. C'est plus dans l'autre sens. Il gagne environ 400 000 euros par semaine depuis son nouveau contrat. Il y a un an quasiment. Mais ce qui est intéressant avec Emery, c'est la remise en cause de son statut. C'est-à-dire que sous Wenger, il jouait quoi qu'il arrive, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, qu'il soit feignant, qu'il soit pas feignant, qu'il travaille dur ou pas, il jouait. Avec Emery, tu joues pas, tu t'entraînes pas bien, tu joues pas. Tu lui donnes pas tout, tu donnes pas 100%, tu joues pas. Et donc il a pas beaucoup joué parce que dans l'attitude c'est pas ça, parce que il choisit encore ses matchs, parce que il y a des fois où il veut pas aller jouer à l'extérieur, à Liverpool, je sais pas où, donc il a mal au genou, il a mal au dos, il a mal à la cuisse, il a mal à la tête, il a mal quelque part. Ouais. Et à un moment avec Emery, ça passe pas. Et ça, qu'on aime Emery ou pas, il faut lui reconnaître que cette saison, c'est ça qui a beaucoup changé. C'est-à-dire que les meilleurs jouent, ceux qui se donnent le plus à l'entraînement jouent, ceux qui le méritent le plus jouent, ce qui n'était pas toujours le cas avec Wenger, notamment lors
des dernières saisons. Mais Julien, sur l'ensemble de la saison, ils sont meilleurs avec lui ou sans lui?
C'est une très bonne question. C'est difficile parce que par exemple, il est exceptionnel contre Leicester. Mais vraiment, à domicile, il est exceptionnel. Et après, par exemple, ils sont très bons sans lui sur certains matchs, sur certains gros matchs, ou non, t'as pas l'impression qu'il leur manque. Et pourtant, il y a d'autres matchs où tu dis, s'il avait été là, peut-être que les choses auraient été un peu différentes. Mais quel Mesut Özil aurait été là? C'est toujours pareil. S'il est là, il est à fond, il se donne à fond, y a pas de problème. Mais s'il est là et qu'il est à moitié en marchant ou à moitié passager du match,
en fait, tu peux pas lui faire confiance. Tu peux pas compter sur lui,
effectivement. Tu sais jamais trop à quoi t'attendre, en fait.
Voilà. Donc c'est un peu c'est dommage parce que techniquement c'est tellement merveilleux, mais le foot c'est un peu plus que de la technique, quoi. Surtout aujourd'hui où le physique a tellement d'importance, c'est-à-dire que les footballeurs sont des athlètes et des types qui pouvaient sortir en boîte il y a 20 ans et jouer le lendemain et marquer des buts, aujourd'hui ce n'est plus possible dans le football moderne. Aujourd'hui ce sont des sportifs de très haut niveau où tout compte, l'alimentation, les entraînements, etc. Et moi je vois par exemple on avait un joueur ici dans le même genre, James Rodriguez, pourquoi il jouait pas avec Zidane?
Il allait souvent en boîte.
Vous avez vu le talent? Mais parce que, il sortait comme un malade, et puis il s'entraînait pas. C'était le pire des 24 membres de l'équipe première, était le pire à l'entraînement. Et donc, Zizou ne pouvait pas le faire jouer, parce que sinon, il perdait tout le vestiaire. Et là, ce que je trouve bien, et ce qu'exprime, et que nous raconte tellement bien Julien Laurence, c'est qu'Emery, il gagne le respect de son vestiaire en étant juste à ce niveau-là. Voilà.
Voilà.
Gagnez maintenant vos places pour Paris Saint-Germain, Manchester United sur RMC. Envoyez foot par SMS au 732-16.
Le signal sonore vient de tomber, c'est à vous de jouer. Vous avez 20 minutes pour remporter donc vos places pour aller voir le 8e de finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Vous l'avez entendu, vous envoyez maintenant foot, F-O-O-T, au 732-16, foot au 732-16 pour remporter vos places. Bonne chance. Restez avec nous, Fred Hermel et Julien Laurence, on revient dans quelques instants. Benita, supporter du Barça, sera également avec nous. On vous a posé cette question. Demain, vous pouvez regarder deux matchs, deux belles affiches. Gros samedi demain. 40% d'entre vous veulent regarder Barça-Real. 31% veulent regarder Tottenham-Arsenal. 17% FC Porto-Benfica. 9% Lazio-Roma. Et 3% seulement pour Gladbach-Bayern. Merci Fredo d'avoir été avec nous.
Merci les amis.
Bon, merci Fred.
Bisous. Tu restes avec nous, Julien.
On se retrouve demain matin.
Demain matin.
Bonheur. Dans les paris RMC, hein.
Voilà. Bisous Fredo.
Pour parler sur quoi? Pour parier sur quoi?
Barça Real.
Oui, l'affiche. Bien entendu, qui a déjà gagné. Voilà. Bonne nuit les amis.
Ciao Fredo.
À demain soir.
Voilà, nous reviendrons quelques instants avec Ludo Bragnac, avec Jonathan Macardy et avec Julien Laurence. À tout de suite.
RMC Football Show. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
Accompagné de Ludo Bragnac et de Jonathan Macardy. Tiens, on va accueillir Benita, supporter du Barça, qui nous appelait au 32-16. Vous savez que demain, il y a énormément de grosses affiches qui vont se jouer en Europe, un peu partout à l'étranger. Salut Benita.
Ouais, salut, bonjour à tous.
Salut Benita.
Bon, Benita, je te demande pas ce que tu vas regarder, toi, demain. Tu vas mater le Classico?
Bien sûr, pour avoir le meilleur joueur du monde en action.
Gérard Piqué.
Oui, aussi, mais un des meilleurs défenseurs. Hein.
Malcolm.
Ouais, Rafinha, oui, non.
Non.
Du coup, si vous me permettez.
Vas-y Benita.
Déjà, j'aimerais vous dire un grand bonjour à tous. Et Jonathan, tu m'as manqué, Jonathan.
C'est gentil, merci beaucoup.
Tu m'aideras à développer certaines choses que je n'arrive pas comme d'habitude. Hein. Du coup, ce que je veux dire, c'est que faut arrêter. Arrêtons, s'il vous plaît. Il n'y a qu'une seule meilleure équipe au monde. Il n'y a qu'un seul club. Faut arrêter. 5-1, 4-0. 3, vous voulez quoi? Mais vous voulez. C'est-à-dire qu'on doit gagner combien de fois pour que les pseudo-supporters... Oh, notre Ligue 2. Arrêtez, 13 Ligue des Champions. C'est bien. C'est magnifique, mais quand vous prenez des raclées à répétition depuis 4-5 ans, que Benitez démissionne à cause d'une raclée que vous vous êtes mangé, on fait un match pourri mercredi. Hein. Mercredi, je vous dis la vérité, nous les jeunes, il y a une expression qu'on dit, on se fait boire. Je ne sais pas si vous la comprenez. C'est-à-dire que mercredi, on s'est fait boire. Mais un des meilleurs joueurs, Luis Suarez, il a dit, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Une occasion, un but, c'est juste magnifique. On peut rien dire contre ça. Alors moi, on a dit, oui, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Gareth Bale. Arrêtez, s'il vous plaît. Si vous étiez un grand club, toutes les occasions que vous avez eues, vous en aurez mis une. C'est comme le... Je sais pas si vous vous rappelez, c'est l'année dernière, Barça-Chelsea, but de Chelsea, on n'existe pas. Une occasion, Léo Mégueli Messi, il la met, fin, un partout, on rentre chez nous, ça s'arrête.
D'ailleurs,
là.
Léo Messi qui retrouve la sélection. Je sais pas si vous avez vu la liste passer.
Alors avec Di Maria d'ailleurs.
Avec Di Maria.
Ils n'ont pas joué, je crois, depuis la finale de la Coupe du Monde.
Exactement. Avec Scaloni l'a pris.
Ouais. Voilà.
Donc du coup, Jonathan, est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît, à expliquer à tout le monde, à tous ces gens qui sont pseudo pro Real, qui expliquent que parce qu'il y a 13 Ligues des Champions et je sais pas.
Et toi t'es pseudo pro Barça quand même, Benita,
t'as raison dans un sens, mais bon, la Ligue des Champions que le Real a gagné, ça vaut quand même quelque chose, c'est quand même magnifique et je pense que c'est quand même la priorité, je vois, de Lionel Messi et du FC Barcelone la Ligue des Champions cette saison, parce que à leur goût, ça fait quand même beaucoup de temps qu'ils l'ont pas gagné. En revanche, dans les confrontations directes, je serais curieux de connaître le bilan, tu vois, des matchs Real Barça depuis, allez, sur les 5 dernières années.
Nico va nous sortir ça.
Mais même si, parce que
je pense que Barça a gagné vraiment beaucoup de fois sur les 5 dernières années, il me semble.
Oui, déjà, et en plus, il y a quand même la manière. Je sais pas si vous êtes rappelé là, le 5-1 qu'on a mis. Alors tout le monde dit que il y a une Messi dépendance, mais quand il y a eu le 5-1, qui peut parler, qui peut oser dire que le Barça n'est pas à la limite, soit à la hauteur du Real ou supérieur? Quand tu vois que le Real n'existe pas dans ce match, et là je parle de ce match pour vous donner juste le tempo de mon développement, quand tu vois que collectivement le Barça est supérieur, et je pense que collectivement le Barça est supérieur à toutes les équipes au monde, je parle juste au niveau du collectif, hein. Je parle pas des trophées, juste au niveau du collectif, des automatismes, des rouages, des mécanismes,
principes de jeu, je dirais,
ouais, du style de jeu, de la philosophie, tout le monde sait où est-ce qu'il doit aller au Barça. Il y a rarement des bandades. On peut dire ce qu'on veut sur Gérard Piqué. Quand il a décidé de se réveiller et d'arrêter de faire des bébés à Shakira, il est là. Il est là. Donc, maintenant, ce que j'aimerais dire, et je terminerai sur ça, parce que si je parle du Barça, j'en ai pour 10 000 ans, le Barça est la meilleure équipe au monde. Okay. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on dit oui, c'est la crise, fin de cycle, mais ils sont toujours là.
Okay. Comment contredire tant d'objectivité?
Ouais, bah après il est supporter aussi, Benita.
Non, mais il a des arguments, Benita.
Merci d'avoir été avec nous en tout cas, Benita. Julien Laurent, c'est de retour. Il a eu un petit problème avec sa ligne. T'es toujours là, Julien, ou quoi?
Ouais, je suis là. Pardon.
Tiens, il y a aussi un petit mot quand même sur Manchester United, qui sera l'adversaire du Paris Saint-Germain en huitième de finale retour de Ligue des Champions. On vous rappelle, hein, vous pouvez gagner des places d'ailleurs sur RMC. Qu'est-ce qu'il fait là, Simone Rovira? Il est de retour.
C'est ça, bonsoir.
Qu'est-ce que tu fous là? T'es passé footissime, toi?
Bah, je voulais savoir, est-ce que ça montait les votes?
Oui.
Après mon énorme passage à la télé,
Simone. Voilà. Qu'il a raison, Julien. C'est-à-dire, ça a monté. Ouais. C'est toujours avant-dernier, mon pote. D'ailleurs, Lazio Roma, 9% des votes.
À la maison, Lazio Roma.
C'est le vote de l'Orto.
Faut monter. À Gladbach
Bayern, 3%. Voilà.
Ah, tu vois, même lui est monté.
Mais
je suis content.
C'est Porto Benfica, 17%. Bon. Et Arsenal Tottenham, 31%.
Ouais, mais toi, combien de fois tu as voté là?
Non, j'ai même pas voté.
Bon. C'est toute ta famille qui a voté.
Julien, juste un mot sur United qui va jouer face à Sutton ce week-end. Ils y croient vraiment d'ailleurs à cette possible remontée là, les joueurs de United ou pas? Les supporters d'ailleurs, je sais pas, Solskjaer.
Ouais, moi j'ai l'impression non qu'ils ont pas trop qu'ils se font pas trop d'illusions non plus. Après ils sont réalistes aussi, ils savent la différence de niveau qu'il y a eu au match aller quand eux étaient quasiment au complet, et ils savent très bien que au Parc des Princes à l'extérieur avec un déficit de 2 buts, sans Pogba, sans Matic, sans Herrera, sans Mata, avec un Martial, sans Lingard, avec Martial et Rashford qui vont revenir ce week-end, ils savent très bien que ce sera très très compliqué. Après, bien sûr qu'ils vont pas défaitistes en se disant on va en prendre 4 ou 5 et qu'ils vont faire bonne figure et qu'ils vont se battre et qu'ils vont tout donner, etc. Il y a pas de souci là-dessus, mais je pense qu'ils savent très bien que la priorité cette semaine-là, c'est le championnat, c'est pas la Ligue des Champions. Il y a le match contre Southampton, tu l'as dit, demain. Après, il y a surtout celui contre Arsenal le dimanche suivant, le 10 mars, donc 4 jours après le match du PSG au Parc, qui sera sûrement le plus important pour eux de la semaine. C'est le plus important, le match le plus important, c'est pas celui du PSG, c'est celui d'Arsenal à l'Emirates, parce que celui-là il vaudra très très cher dans la course à la 4e place en championnat.
Ok. Très bien. Et il y a le mano à mano toujours, hein, entre City et Liverpool aussi. Ça aussi ça va être sexy, hein, ce week-end.
Ouais, t'as raison, ça va être sexy avec City qui joue encore une fois avant Liverpool, donc qui en cas de victoire reprendrait la tête du classement, mettrait encore plus de pression à Liverpool avant le derby contre Everton.
Ouais, il y a un jeu de domino
dimanche pour les Reds. Non, ouais, tu vois, et puis après, je sais pas psychologiquement, Ludo, ce que t'en penses, c'est mieux de jouer en premier chaque week-end et donc de remettre la pression sur le gars qui joue d'après, ou c'est mieux de jouer en deuxième et d'attendre peut-être le faux pas du premier qui aura donc joué avant et toi t'auras moins de pression derrière? Je sais pas trop.
Non, c'est clairement mieux de jouer en premier.
Ah oui.
C'est clairement mieux de jouer en premier derrière. Forcément, si City gagne, ça te met dans l'obligation de...
Non, et s'il gagne pas, ça te met dans l'obligation encore plus de gagner aussi.
Ouais.
Ouais, c'est ça. C'est que, regarde, City a pas gagné l'autre jour quand Liverpool aurait pu prendre 7 points d'avance contre Leicester, et finalement ils font que match nul, Et c'est vrai que à ce moment-là, ça avait joué contre eux, le fait peut-être de savoir que City avait déjà perdu des points et s'était mis une pression supplémentaire encore
psychologiquement,
plus.
Psychologiquement, ça met une pression sur l'adversaire qui est Liverpool. Quand tu sais que tu viens de te faire repasser devant, tu te sens dans un match, tu te sens obligé d'aller chercher la victoire. Alors que des fois, je te dis, Liverpool cette année, ils sont pas passés beaucoup au travers, mais dans un match où tu pourrais peut-être tu peux passer à côté et tu te dis que protéger un match nul, prendre un point dans la course au titre, c'est peut-être finalement un bon point quand t'es moins bien, mais tu sais que voilà, ça te pousse à aller chercher la victoire et des fois ça te fait perdre des matchs.
Juste un mot avec toi, Simon, également. Il y a Fulham Chelsea également ce week-end. Alors Ranieri s'est fait virer cette semaine. Ouais. À Chelsea, bon, Sarri vient de gagner contre Tottenham. Ça reste chaud pour lui quand même, non?
Ça reste chaud, mais en Italie, on a parlé beaucoup de ces, plus de Sarri que du départ des Ranieri. C'est-à-dire comme si la victoire face à Tottenham avait un peu mis de côté tous les problèmes qu'il y a eu, que ça pouvait donner comme une union, même du vestiaire, pour l'aider à finir bien la saison. Après, c'est vrai que ça reste un peu compliqué, mais ce qu'on dit en Italie, c'est qu'avec cette victoire, Sarri aurait presque sauvé son banc jusqu'à la fin de la saison.
Okay.
Après qu'à la fin de la saison, son départ soit fort probable, c'est un sujet de discussion.
Je vous rappelle ces affiches de demain. Il y aura Barça-Real pour lequel vous avez voté en majorité. C'est le match que vous voulez voir demain. Arsenal-Tottenham, enfin d'ailleurs Tottenham-Arsenal, ce sera suivi d'ailleurs sur RMC Sport 1. Il y aura FC Porto-Benfica, ce sera 13h30, hein, Arsenal-Tottenham-Arsenal. FC Porto-Benfica 21h30 également. Il y a Lazio-Roma et Gladbach-Bayern aussi. Merci Julien d'avoir été avec nous.
Salut Julien. Merci à vous. Julien.
Ciao. Et il y a autre chose.
Oui.
La nuit qui suit sur RMC Sport 4.
Alors il y a
UFC
deux combats.
230, hein.
Ouais, il y a deux combats, je crois, c'est ça.
Il y a toute une carte, mais trois combats magnifiques.
Ça n'intéresse personne.
Bah c'est bien sûr que si. Attends, on le diffuse déjà. Moi, je vais calmer mon coco parce qu'on le diffuse. Deuxièmement, c'est le meilleur combattant techniquement qui a jamais mis les pieds dans la cage, qui va combattre. C'est en la personne de John Jones. Et il y a un super.
Ah ouais, John Jones, j'adore.
Il est un monstre.
Mais pas Smith ou pas.
Non.
Il y a les débuts de Ben Askren à l'UFC et il y a surtout Tyrone Woodley contre Kamaru Usman qui va être un super combat.
Quelques petites infos également. Vous savez qu'il y a quand Paris Saint-Germain ce week-end. Alors Cavani a repris l'entraînement collectif aujourd'hui.
Mais
il sera pas opérationnel pour le match face à Caen. Il y a également Thomas Tuchel qui a répondu à Roland Courbis. Vous savez que Roland Courbis a lancé un petit pari là en disant voilà, si jamais Mbappé ne marque pas, je paye le resto à mes joueurs.
Tuchel
a dit, c'est plutôt une bonne idée. C'est pas mal, ça peut être pas mal pour motiver ses joueurs. Voilà, il était plutôt cool Thomas Tuchel.
Il a dit qu'il allait laisser Mbappé à la maison même, peut-être.
Ouais. Fekir qui est de retour du côté de Lyon, qui jouera face à Toulouse, ce sera demain à 17h. Le CNOSF qui a repoussé la demande de Nîmes. Vous savez que le match entre Rennes et Nîmes a été repoussé par la Ligue pour que Rennes puisse avoir un plus grand temps de préparation avant le match.
Ils ont sacrément été lésés, les crocos, quand même.
Ah ouais, nous aussi sur mon petit gazon. Attends,
Alors il y a une info qui demandera à ce que les Nîmois d'ailleurs répondent à cela également. Selon le Midi Libre, les joueurs de Nîmes ne se sont pas entraînés aujourd'hui, faute d'avoir trouvé un accord sur leur prime de match et leur prime de maintien. Voilà, ils sont restés en salle, ils ont pas voulu s'entraîner sur le terrain cet après-midi. Ce sera à suivre donc dans les prochains jours. Et puis tu le disais tout à l'heure, Messi et Di Maria qui devraient être de retour en équipe nationale argentine.
Avec Paredes aussi.
Voilà, pour les matchs face au Venezuela et au Maroc au mois de mars. Merci Simone.
Pas d'écart.
Non. Et pas de Kun Agüero non plus.
Ciao, ciao.
Voilà notre. Aux dernières news, au dernier sondage, l'Adio Roma remonte dans les sondages.
Die.
Bah, attends, ils peuvent peut-être revenir à 22 points.
Ça fait mal.
Donc, là.
Non, die. Je suis supporter de cette fiche. Tous ensemble, regardez
Roma. Merci, Jonathan. Merci, Simone. Merci, Ludo. Merci, Jérôme Thomas. Merci beaucoup, Daniel Torres. Bonne nuit, bisous. Donc,
salut.
RMC Football Show, l'After Foot.